Il est 9h à Kanyabayonga dans le Nord Kivu et même heure à Ilebo dans le Kasaï. C'est l'heure de nous informer.
Radio Kapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais d'abord, les titres de ce journal. La RDC entame officiellement son mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le 2 janvier 2026. Pour la ministre des Affaires étrangères, la RDC siégera avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé de multilatéralisme, avec respect des engagements pris afin d'obtenir une paix durable. En une seule journée, du 1er janvier à Kinshasa, plus de 400 Kuruna sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Ndobo conduite des mains de maître par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemain Shabani Lokou. La loi numéro 25/061 modifiant le cadre juridique de l'activité et du contrôle des établissements de crédit a été promulguée le 31 décembre dernier. Portée au Parlement, cette réforme ambitionne de moderniser un secteur longtemps jugé peu inclusif et peu attractif pour les investisseurs. Pour en parler, nous recevons son initiateur, le député national Olivier Kassanda Katwala. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal du matin sur la radio de la paix. La ministre des Affaires étrangères affirme que l'entrée de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas une récompense, mais plutôt une mission. Thérèse Kayikwamba Wagner l'a dit ce vendredi 2 janvier 2026, jour où la RDC entame officiellement son mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans un communiqué et une vidéo publiée à cet effet sur X, elle affirme, je cite, « La RDC siégera avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé de multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. » Fin de citation. On écoute Thérèse Kayikwamba Wagner dans ses propos recueillis par Alain Irung Moshinge.
Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde, lorsqu'elle se tourne vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions.
Je le disais en titre, ce jeudi 1er janvier 2026 à Kinshasa, plus de 400 présumés criminels, communément appelés Kuluna, interpellés en une seule journée. C'était lors d'une ronde sécuritaire conduite par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemain Shabani Lokou, dans plusieurs commissariats urbains de la capitale dans le cadre de l'opération Ndobo. Objectif, renforcer la lutte contre la criminalité urbaine. Le point avec Grâce Amzati Masanzi.
La tournée a débuté dans la commune de Mongafula où 45 présumés Kuluna ont été interpellés. À Kintambo, 30 autres suspects ont été arrêtés. Le vice-premier ministre s'est ensuite rendu au Kalufungula où une quarantaine de personnes sont tombées dans le filet de la police. Dans le district de la Funa, au commissariat urbain de Kalamu, 51 présumés bandits y sont détenus. À Limete, les forces de l'ordre ont mis la main sur 56 autres suspects. La ronde s'est achevée dans la commune de Massina, au commissariat urbain de la Tchangu, où 242 présumés criminels sont sous le verrou, ce qui constitue le plus grand nombre de personnes arrêtées au cours de cette journée. ce qui fait un total de 424 personnes interpellées à Kinshasa en une seule journée. Ce bilan porte à près de 8000 le nombre de présumés criminels arrêtés tant à Kinshasa que dans la dizaine des provinces où l'opération Ndobo, mise sur pied pour lutter contre la criminalité, est déjà opérationnelle depuis décembre 2024. Tous les suspects seront présentés devant la justice et des audiences en chambre foraine seront organisées pour que chacun réponde de ses actes, renseigne Jacquemain Chabani.
Ce même jeudi 1er janvier 2026, un drame s'est produit au camp Lumbundi, situé à 15 km du secteur de Mampangu, dans le territoire d'Ilebo, province du Kasaï. Le commandant Djuma du sous-commissariat de ce camp a été tabassé à mort par des jeunes du milieu pour avoir frappé une femme qui était au cachot. D'après les sources locales, la police du commissariat de Mampangu est descendue sur les lieux pour enquêter sur les dossiers. Cependant, la population du camp s'est réfugiée dans la brousse, craignant des interpellations. Détail avec André Katinde Ngalamoulumé.
Selon plusieurs sources, l'incident est parti de l'arrestation d'une femme du camp qui était frappée par le commandant Djuma. En réaction, des jeunes du camp sont intervenus et ont frappé ces commandants à mort. La police du commissariat de Mapangu, appuyée par le sous-commissariat de Masongo, s'est rendue sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation et ramener la paix. Le corps du commandant décédé a été enterré à Mapangu Centre et l'un des jeunes impliqués dans cet acte se trouve entre les mains de la police. Réagissant à cette situation, François Malepo, président de la société civile du territoire d'Ilebo, appelle les autorités judiciaires à ouvrir des enquêtes afin que tous les auteurs de ces meurtres soient arrêtés et traduits en justice. Il dénonce toutefois des actes de pillage attribués à certains éléments de la police lors de leur intervention au camp Lumbundi. Nos efforts pour entrer en contact avec le commandant du commissariat de Mapangu se sont avérés vains. Kananga, André Katende Ngalamoulumé, Radio Okapi.
Dans la province de l'Ituri, pendant ces temps, les habitants de la région de Mabanga, en territoire de Djougou, ont passé la fête du Nouvel An sous les crépitements des balles. Selon des sources locales, des éléments de la Convention pour la Révolution Populaire CRP ont tiré plusieurs coups de feu dans la zone, provoquant une riposte des forces armées de la RDC qui auraient réussi à les repousser. Ces échanges de tirs devenus fréquents plongent les populations dans une psychose quasi permanente, notamment à Guélé, Passion, Mabanga et dans les localités environnantes. Craignant pour leur sécurité, de nombreux habitants ont fui la zone pour se mettre à l'abri. Plusieurs structures sanitaires fonctionnent au ralenti, voire sont abandonnées après la fuite du personnel médical. Une situation qui complique sérieusement la prise en charge des malades, déplore un responsable sanitaire local. Ce journal se poursuit dans la province du Sud Kivu où les Congolais qui ont fui récemment Uvira à Efizi pour trouver refuge au camp de transit des Rugombo, Rumonge et Gatumba mènent une vie difficile et sont dans la précarité. Ils manquent de tout, comme en témoigne leur représentant Mapenzi Maniebois au micro de Jean Kassami.
Les réfugiés congolais au niveau de Gatumba ont passé cette fête de Nouvel An dans l'angoisse, parce que dans la plupart des cas, n'ont pas trouvé quand même des moyens pour acheter à leurs enfants des objets pour la fête, et notamment les habits et autres. Et surtout que nous sommes toujours dans des conditions difficiles sur le plan hygiénique, la plupart manquent à manger, et c'est dans cette souffrance et dans cette stress que la plupart des réfugiés congolais ont passé cette fête. Mais de toutes les façons, on a glorifié le Seigneur de commencer une nouvelle. Et on n'a pas autre chose à faire, ce n'est que à remercier le Seigneur d'avoir encore cette chance d'être parmi ces gens qui ont vécu cette année malgré la souffrance. Mais au moins, on vient d'être parmi ceux-là qui vont encore vivre dans cette nouvelle an qu'on appelle 2026.
Accueillis au Burundi depuis le 10 décembre 2025, ces réfugiés congolais n'ont jamais bénéficié d'une assistance conséquente, hormis les interventions ponctuelles de certains particuliers. Le HCR Burundi est en train de le relocaliser vers la province de Ruhigi, environ 60 km au nord de Bujumbura. Retour en Ituri où les casques bleus de la MONUSCO ont mené le 27 décembre 2025 une opération d'évacuation médicale d'urgence en faveur des civils blessés lors des récents affrontements entre les groupes armés
Convention pour la Révolution Populaire CRP et les FARDC à Bayo, dans les territoires de Djougou, à 95 km de Bounia. Après les premiers soins sur place, plusieurs femmes et enfants ont été transférés vers Fataki, avec l'appui du contingent népalais, illustrant l'engagement de la mission de l'ONU à protéger les populations malgré un contexte sécuritaire difficile. Les explications du colonel Charles Ijiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO, au micro de Martial Papimukeba.
Cette opération d'évacuation médicale d'urgence menée par les CASP le Bangladais était en faveur des civils blessés. Après avoir administré les premiers soins sur place, les équipes médicales ont stabilisé plusieurs femmes et enfants atteints de blessures par balles avant d'assurer leur évacuation vers la localité de Fataki avec l'appui du contingent népalais. Cette intervention rapide a permis de sauver des vies dans un contexte marqué par une insécurité persistante. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la MONUSCO en matière de protection des civils et d'assistance médicale dans la zone. Ces derniers jours, la mission a multiplié les interventions de premier secours, de prise en charge des traumatismes et de soutien à l'évacuation médicale, malgré les défis liés à l'accès et aux tensions sécuritaires. Grâce à la coordination avec les leaders communautaires, plusieurs civils ont pu rejoindre la base de la MONUSCO à Bayo afin de recevoir une assistance vitale, illustrant l'engagement constant de la MONUSCO à garantir la sécurité et la protection des populations civiles.
Signalons que les casques bleus de la MONUSCO ont échangé le 26 décembre 2025 avec les responsables des camps des déplacés de Loda et Djaïba dans le territoire de Djougou sur les renforcements du partage d'informations et la protection des populations déplacées. La mission a annoncé l'achèvement de l'installation des lampadaires solaires dans les camps pour améliorer la sécurité. Le député provincial du Kasaï central, Papi Noël Kankou, interpelle le gouvernement central sur la qualité des travaux exécutés par l'entreprise Safrimex sur la route nationale numéro 1 dans la ville de Kananga. Dans une lettre adressée au ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction, il affirme que la chaussée présente déjà des fissures avant même son inauguration. L'élu de Demba sollicite ainsi l'implication du ministre afin qu'une enquête soit ouverte sur l'exécution de ces travaux. Détails dans ce reportage d'André Katende Ngalamuloumé.
Dans sa correspondance adressée au ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction le mercredi 31 décembre dernier, le député provincial Papi Noël Kankou monte au créneau contre la qualité qu'il juge inadmissible des travaux exécutés par l'entreprise Safrimex sur la route nationale numéro 1 dans la ville de Kananga, précisément sur les tronçons rond-point Notre-Dame à l'aéroport de Kananga. L'élu de Demba dénonce la détérioration précoce des ouvrages avant même leur inauguration officielle. Il fustige également la carence manifestée de la mission des contrôles ainsi que la lenteur observée dans l'exécution des travaux. Pour Papi Noël Kankou, cette situation s'apparente à un véritable gâchis financier. Il en appelle ainsi à l'implication du ministre des tutelles afin qu'une inspection rigoureuse soit diligentée et que les responsabilités soient clairement établies. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Cap.
Actualité internationale.
Lors de son discours à la nation pour le nouvel an, le général Assimi Goïta, chef de la junte malienne, a annoncé l'organisation en avril prochain de consultations pour la réélecture de la charte des partis politiques qui avait entraîné la dissolution de tous les partis du pays. L'objectif, définir de nouvelles conditions de formation et d'exercice des partis au Mali, suspendus depuis mai 2025. Entre avril et juillet 2024, les autorités maliennes de transition avait déjà suspendu pendant 3 mois les activités des partis politiques, invoquant des raisons d'ordre public. Les dernières semaines de 2025 ont été marquées par un regain de tensions entre l'Égypte et les maréchals libyens Khalifa Haftar, qui contrôlent l'est et le sud de la Libye. À l'origine du différend, l'implication du clan Haftar dans le conflit soudanais. Selon le Caire, Haftar, incité par Abu Dhabi, fournit un soutien logistique aux paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée régulière. Le sud libyen s'est ainsi ainsi transformé en base arrière, acheminant armes, carburant et mercenaires via les Darfour. L'Égypte inquiète pour ses frontières sud et ouest, multiplie les messages diplomatiques afin d'inciter Haftar à tempérer son action.
L'invité.
La loi numéro 25/061 modifiant les cadres juridiques de l'activité et du contrôle des établissements de crédit a été promulguée le 31 décembre dernier. Portée au Parlement par les députés nationaux Olivier Kassandakatwala, cette réforme ambitionne de moderniser un secteur longtemps jugé peu inclusif et peu attractif pour les investisseurs. Selon son initiateur, l'élu de Lukunga à Kinshasa, cette loi vise également à élargir l'accès aux services financiers, à renforcer la supervision bancaire et à restaurer la confiance dans un écosystème encore fragile. Olivier Kassandakatwala s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Olivier Kassandakatwala.
Bonjour monsieur Ndongala.
La loi numéro 25/061 modifiant les cadres juridiques de l'activité et du contrôle des établissements de crédit que vous avez porté à l'Assemblée nationale a été promulguée. Pouvez-vous nous faire l'économie de ces textes?
Bon, merci pour la question. C'est une très bonne nouvelle pour le secteur bancaire. Si on peut résumer ça en deux mots. Premièrement, le secteur bancaire était confronté à deux difficultés que l'ancienne loi, donc celle qui date de 2022, a portées. Donc la première, c'est le fait que les législateurs, en 2022, a fixé une exigence que chaque établissement de crédit devait avoir au moins 4 actionnaires significatifs, avec une quantité minimale de 15% chacun. Ce qui est totalement impossible à réaliser dans un pays comme le nôtre qui n'attire pas beaucoup d'investisseurs. Ensuite, il y a le fait que les législateurs avaient fixé donc un délai de 6 mois pour que les établissements de crédit puissent se conformer à cette nouvelle exigence. Ce qui fait que en 2023, au mois de juin, tous les établissements de crédit dans notre pays n'ont pas été en mesure de se conformer, ce qui a créé une certaine illégalité à leur chef. L'initiative parlementaire que j'ai portée avait pour but justement de faire cesser cet état d'illégalité qui frappait tous les établissements de crédit. Grâce à cette réforme, l'obligation qui incombait aux banques d'avoir au moins 4 actionnaires a été supprimée, remplacée par une nouvelle, celle de 2 actionnaires au minimum. Le concept d'actionnaire significatif a été supprimé et les délais des mises en conformité a été revus dorénavant. Les établissements de crédit ont au moins 36 mois pour se conformer à cette exigence.
Pourquoi qualifiez-vous la publication de cette loi d'une victoire du peuple?
C'est une victoire du peuple justement parce que c'est une initiative parlementaire. C'est une loi qui était portée par un député national. Un député national qui est un élu du peuple.
Après publication sur ordonnance, qu'est-ce que vous comptez entreprendre dans la prochaine étape?
Bon, la prochaine étape, c'est une étape d'observation. La loi telle qu'elle a été publiée, elle ne correspond pas totalement à l'initiative que j'avais prévue au départ. Donc il y a ce qu'on peut appeler une relique qui demeure dans cette loi et qui, notamment le fait qu'il y a une clause qui accorde à la Banque centrale le pouvoir de fixer des quotités. Pour moi, c'est un vestige qui mérite d'être supprimé, mais comme c'est l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, qui sont en fait le Parlement, qui ont le pouvoir de décider ce que doit être une loi, on acquiesce. Et donc je pense que dans les années à venir, il faudra peut-être observer comment va se comporter la Banque centrale à l'égard du secteur, si le pouvoir qu'elle a obtenu pour, entre guillemets, fixer des quotités ne sera pas un pouvoir trop intrusif. Le fait qu'on attribue à la Banque centrale le pouvoir de fixer des quotités, alors que partout ailleurs au monde, c'est les législateurs qui ont ce pouvoir-là. Il faudrait peut-être les laguer de manière définitive.
Après promulgation, avez-vous un message spécifique à lancer à tous ceux qui œuvrent dans les secteurs bancaires congolais?
Aux banques en particulier, mais aux établissements de crédit de manière générale, je pense que le secteur est aujourd'hui soulagé. Donc il fallait bien entendu revoir cette disposition légale qui était atypique, parce que partout au monde, et particulièrement en Afrique, nous n'avons pas des réglementations bancaires qui imposent qu'il y ait 4 actionnaires dans une banque. Donc il a fallu que nous puissions obtenir de nos collègues députés nationaux et des sénateurs que cela soit modifié. Donc je pense que le secteur bancaire peut se sentir soulagé, mais que nous sommes là au service de l'ensemble de la population et mais également des opérateurs économiques. S'il y a des dispositions légales qui sont dérangeantes, je pense que la porte des députés nationaux est ouverte pour tous ceux qui peuvent apporter des idées dans le sens de l'amélioration du climat des affaires de notre pays.
Monsieur Olivier Kassandakatwala, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Blaise Ndongala. Je remercie également les auditeurs de Radio Okapi. Et donc, merci beaucoup.
C'était notre invité Olivier Kassanda Katwala qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à ce journal coordonné et supervisé par Jude Mister Bilandan Kumar et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est disponible sur toutes les plateformes digitales de la Radio de la Paix et sur son site internet www.radiokapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Radio Okapi.